dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs.
Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de...
Superpose.
J'ai 29 ans, je m'appelle Gabriel, je fais de la musique depuis que je suis petit. J'ai appris les percussions classiques et aujourd'hui je compose une musique instrumentale, plutôt électronique, très mélodique. Je collabore beaucoup en tant que producteur, réalisateur, je compose de la musique pour le cinéma et le théâtre aussi. Voilà, je suis musicien. Je suis musicien de musique électronique et instrumentale.
Et on vous connaît sous quel nom ?
On me connaît sous le nom de Superpose.
Dans les oreilles de...
Superpose, qui entre autres collaborations produira des morceaux pour L'Homme Pâle, DJ Po, Nekfeu, Alex Baupin ou Jacques, avec lequel il sortait en 2019 le disque Endless Cultural Turnover. Il est arrivé From the Cold en 2012, c'est le nom de son premier EP, 10 ans et 2 albums solo plus tard. Il revient avec Nova Cardinal, un troisième disque qui sortira au printemps prochain et dont on a découvert cette semaine un deuxième extrait, Geneva. L'occasion de parler instruments, composition, vision et inspiration. Superpose déroule le fil de sa vie musicale sur Radio Nova, une heure pendant laquelle sonneront entre autres les musiques de Philippe Glass, Flying Lotus, Mercury Rêve, Herbie Hancock ou encore Aitlin Aurelia Smith. Et pour donner le coup d'envoi de cette émission, par quelle musique Superpose choisiriez-vous de vous présenter à nous ?
Il y a une version du boléro de Ravel par les sœurs Labec qui a été réarrangée pour un ensemble de percussions basques, pour deux pianos donc, et percussions basques. C'est sur un disque qui s'appelle Amoria et c'est ma version préférée du boléro. C'est à la fois une musique que moi j'ai étudiée au conservatoire en classe de percussion, voilà, pour la partie de caisse claire du boléro. C'est à la fois un tube de pop, à la fois une musique répétitive, progressive. C'est un enregistrement que je vois comme un centre de gravité de pas mal de choses que j'aime en musique, voire de la plupart des choses que j'aime en musique.
Thank you.
les oreilles. Dans les oreilles de...
Superpose.
Les sœurs Labeck, sœurs Radio Nova, illustres pianistes pour lesquels les grands compositeurs Luciano Berio ou encore Philippe Glass ont écrit des œuvres pour deux pianos, Katia et Marielle Labeck, qui en 2018 rendait hommage à leur Pays basque natal dans ce disque Amoria qui s'achève sur cette relecture pour deux pianos et percussions basques du Boléro de Maurice Ravel dont on entendait à l'instant un extrait. C'est avec ce morceau qu'il a choisi de se présenter à nous. Lui, c'est Superpose. On le retrouve dans un instant, quelques années en arrière, dans le salon familial à Caen.
Les oreilles de...
Superpose.
Le voyage de Pénélope, le duo R sur Radio Nova, c'est avec ce morceau que se clôture leur premier disque, Moon Safari, sorti en 1998. Un disque qui va très vite croiser la route de notre invité ce matin, le musicien Superpose.
Ben, y a un fameux disque, en fait, je sais pas comment il est arrivé chez moi... C'est une compilation, en fait, mon père, il avait... C'est vraiment un truc très marquant, j'en parle assez souvent, mais c'est... Mon père, il avait ramené de Londres un CD gravé avec la moitié de Moon Safari et la moitié de Deserter Song, l'album de Mercury Rêve. Et c'était, je dirais, les 4-5 premières chansons de l'un et les 4-5 premières chansons de l'autre. Et donc ce disque, je l'ai adoré, et d'ailleurs, jusqu'à tard, pour moi, c'était un même album dans mon esprit. Donc c'est ça, ouais, vraiment.
Ouais, la première musique que tu t'es appropriée, c'est ça.
Ouais, je pense que j'écoutais beaucoup.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique chez toi ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Mon père, il écoutait beaucoup de pop. Il écoutait R, il écoutait Beck, Mercury Rêve. You had to choose a side to lose and divide yourself into the way you were long before you were a walking civil war, but you fought. aussi de la variété française que moi j'aimais moins, voire pas du tout, que j'ai appris à aimer plus tard. Et il jouait de la guitare. Et ma mère, elle écoutait beaucoup de musique classique et de jazz. Elle écoutait Bach, elle écoutait Keith Jarrett. Souvenir de musique, c'est le piano à la maison. J'ai appris le piano très tôt avant d'entrer au conservatoire, mais c'était on va dire des cours à la maison, pas très assidus de temps en temps, mais c'est le premier instrument que j'ai vraiment touché.
T'associerais ton premier souvenir musical à l'instrument?
Oui, ou alors à la guitare de mon père qui jouait de la guitare, qui n'est pas musicien professionnel, mais qui jouait de la guitare. Et sinon, en fait, j'associe aussi, comme j'ai commencé le conservatoire très tôt, j'ai commencé le conservatoire à 6 ans, j'associe plutôt quand on déambule dans les couloirs du conservatoire, on passe devant les portes de toutes les classes, clarinette, violon, percussion, piano, etc. Et on entend au loin, comme très diffus, tout un tas d'exercices, tous les instruments, et c'est cette espèce de magma, de son. Ça fait vraiment partie de mes souvenirs sonores et musicaux d'enfance.
Voilà, cette musique qui jaillit d'une porte qui s'ouvre.
Exactement, ouais.
Nova, dans les oreilles de...
Superpose.
Et le premier disque que tu te sois acheté, c'était quoi?
Le premier disque que je me suis acheté, je pense que c'est... j'ai dû m'acheter Mano, enfant, l'album de Mano. C'est fou parce que personne n'écoutait de rap chez moi. Et MC Solar aussi. En fait, c'est marrant, les premiers disques que j'ai achetés, ce sont des disques de rap. Et je me souviens même avoir enregistré sur mon poste radio avec les cassettes des morceaux de Eminem. Alors que c'est pas la musique du tout qu'il y avait chez moi. Et je l'écoutais pas d'ailleurs en rupture avec la musique qu'il y avait chez moi, parce que j'adorais la musique qu'il y avait chez moi, mais je sais pas, c'était en plus. C'était mon truc. I don't do black music, I don't do white music. I make fight music for high school kids. Put lives at risk when I drive like this. I put wives at risk with a knife like this. Shit. You probably think I'm in your tape deck now. I'm in the backseat of your truck with duct tape stretched out. Duck the fuck way down, waiting to straight jump out. Put it over your mouth and grab you by the face. What now? J'achète des singles, j'achète de la pop qui passe à la radio. Puis très vite, je fais des groupes à 10 ans. En fait, comme j'ai fait ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés, donc le matin à l'école, l'après-midi au conservatoire. Et j'ai vite formé un groupe de musique avec des copains de classe, mais on avait 10 ans, quoi. Et mon père nous a emmenés en studio, nous a offert une séance d'enregistrement. Donc on a enregistré un 5 titres, où on est vraiment tous sur la pochette, on a 10 ans. Et très vite, je me suis amusé à faire même des CD, quoi. C'est-à-dire que j'ai aussi le souvenir, dans ma collection de CD, des premiers disques que j'achète, déjà des disques que je fais. J'avais même fait des disques avec pas de musique dessus, j'avais juste imaginé le nom d'un groupe, la pochette, voilà.
Et il s'appelait comment, ce fameux groupe?
Il y avait un groupe qui s'appelait Kami-sama, parce que c'était une carte au Dragon Ball Z. Je sais même plus ce que c'est dans Dragon Ball Z, Kami-sama, parce que j'ai pas lu depuis très longtemps. Mais... En fait, j'étais en percussion classique, donc il y a vraiment xylophone, marimba, timbal, les percussions d'orchestre. J'adorais ça, mais j'avais pas une pratique assidue, j'étais pas un très bon élève au conservatoire. Et j'avais en ligne de mire la batterie, je voulais faire de la batterie comme dans les groupes de rock. Et on peut pas avoir on peut pas pratiquer en horaire aménagé, on fait pas des cours de batterie, on est au conservatoire, on fait de la percussion classique. Et à la fin du collège, je me souviens avoir dit « De toute façon, j'arrête le conservatoire, je passe pas mon diplôme, ça m'intéresse plus, je veux plus entendre parler de vous. Mais il me reste obligatoirement un an à faire, parce que c'est mon parcours scolaire, c'était lié à mon parcours au collège. Et donc là, on a accepté que je fasse une année uniquement de batterie, étant donné qu'on me formait pas pour devenir quoi que ce soit, j'allais pas passer l'examen, il y a eu, on va dire, un arrangement dans mon sens. Et j'ai fait une année de batterie et j'ai l'impression d'avoir plus appris... en musique dans cette année scolaire, c'est-à-dire même 9 mois, quoi, enfin une année scolaire,
Qu'en 5 ans de...
Ouais.
Et qu'est-ce qui te plaisait dans l'instrument ?
Le bruit. Le bruit, le bruit. On pouvait jouer fort, c'était imposant, c'était... Et aussi une autre réalité, c'est que j'ai choisi un instrument parce qu'il y avait vraiment cette... Moi j'ai des parents qui se méfiaient de l'éducation nationale et du fait de passer toute la journée à l'école, donc il fallait trouver un par autre chose. Et comme j'étais pas du tout sportif... C'était classe, les horaires ménagers de musique, mais ça aurait peut-être plus, si j'avais dit « Ah, mon truc c'est le sport », ça aurait été peut-être faire du sport l'autre moitié de la journée. Et donc dans le choix des instruments, il fallait choisir un instrument, et donc moi j'avais appris le piano un petit peu, mais c'est pareil, c'était... En fait, il faut de la discipline et j'en avais pas. Et la batterie, je me projetais ça comme quelque chose de plus instinctif ou plus... Ce qui est marrant, parce qu'aujourd'hui, je fais pas du tout de la musique de manière instinctive et je suis redevenu... Enfin bon, bref. Ouais, je m'imaginais que c'était plus libre, plus fou, plus marrant aussi.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de... Superpose.
J'ai un faux souvenir musical.
Ah.
Qui est... qui est un concert d'Herbie Hancock quand j'avais 3 ou 4 ans, qu'on m'a tellement raconté qu'il fait partie de ces souvenirs dont on sait pas si on s'en souvient vraiment. Ça, je dirais que c'est mon premier souvenir de concert. Le premier gros concert que j'ai vu de musique actuelle, qui ne soit pas de la musique classique en auditorium ou conservatoire, c'était MC Solar au Zénith à Caen sur la tournée de Hasta la Vista. Et je m'en souviens bien avec tous les danseurs, les décors, les vidéos. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était mon premier gros concert comme ça. Donc ça, c'est un souvenir très fort. C'est mon premier vrai gros souvenir.
Et aujourd'hui, sur toute la somme des concerts et représentations que tu as pu voir, est-ce qu'il y en a un qui reste comme étant un moment extrêmement marquant ?
Oui, il y a un concert qui m'a... Donc moi, je suis né à Caen et il y a un festival là-bas qui s'appelait Nordic Impact, qui était un festival de musique électronique. Et je me souviens vers, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 17 ans, 16 ou 17 ans, d'aller voir un concert dans un parking souterrain avec des artistes. Il y avait Dorian Concept, Fulgence... un musicien qui s'appelle Yogi Wan aussi. C'était, c'était la première fois que j'entendais en fait, le hip-hop instrumental, pour le dire, bancal, avec des rythmiques décalées. Moi, je ne connaissais pas Flying Lotus, je ne connaissais pas toute cette musique-là. Et je me souviens que je débarque dans ce parking, avec tout le fantasme, en plus adolescent, on est dans le parking souterrain. Voilà. Et c'est un des concerts les plus marquants. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas comment je le vivrais. Peut-être que ça ne sonnait pas très bien. Enfin, je ne me souviens pas. En fait, j'avais aucune notion à l'époque pour comprendre.
C'est dans la mesure où ça ouvrait tout un univers.
Ah oui, complètement.
Un disque comme ça qui a changé ta vision de la musique ?
Oui, je dirais que jusqu'à préadolescent, j'ai écouté un peu indifféremment des groupes de rock, punk rock, Uncommon Men from Mars par exemple, j'écoutais NoFX, ces groupes-là j'aimais bien, mais sans réfléchir vraiment à la musique. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu le morceau Ghostwriter de RJD2, personne chantait, Il y avait cette rythmique, moi j'écoutais pas vraiment, en fait j'avais écouté vaguement des disques de rap, mais j'étais pas du tout familier avec ces tempos-là. Ça c'est un morceau, en tout cas je parle pas du disque, parce qu'en fait je crois que l'album c'était Dead Ringer, mais finalement je l'ai assez peu écouté. C'est ce premier tube de musique instrumentale, voilà.
Dans les oreilles de
Superpose.
Le producteur américain RJD2 sur Radio Nova et ce morceau familier aux fidèles hein, de la Nova, Ghostwriter, extrait du premier disque solo du musicien Dead Ringer, qui en 2020 prenait le relais d'un DJ Shadow côté hip-hop instrumental. Un morceau qui a ouvert des voies à notre invité ce matin, Superpose, qui revient sur les disques fondateurs dans son propre parcours de musicien et producteur. Il y a RJD2 et cet autre producteur que je vous invite à découvrir tout de suite sur Nova.
Et sinon, adolescent, je dirais qu'il y a eu Cosmogramma de Flying Lotus. Superpose.
C'était en 2010, Cosmogramma, le troisième album de l'américain Flying Lotus, sortait dans les bacs. Une troisième missive qui, vous l'entendiez à l'instant, élargit le champ des possibles. C'était Zodiac Shit, un disque qu'écoutait notre invité adolescent et dont il se rappelle avec nous les effets avant de revenir sur ses premiers pas dans la composition.
C'est cette image, ce même là avec le cerveau qui explose au fur et à mesure. Voilà. C'est un peu ce que j'ai ressenti à l'écoute de cet album. Là, je comprenais rien, mais ça avait l'air génial. Je savais pas pourquoi ça l'était, mais.
Et à ce moment-là, tu composais ou pas du tout?
Non, pas encore.
C'est arrivé quand?
En même temps, parce que Cosmogramma, c'est 2010. Et en fait, j'ai commencé en 2009. Et composer, c'est un grand mot. Je faisais des boucles un peu sur mon ordinateur parce que le copain de ma sœur m'avait dit « Oh, regarde, j'ai téléchargé ce logiciel, je peux te l'installer, c'est marrant, tu peux faire des rythmiques. » En fait, j'utilise toujours un logiciel qui s'appelle Reason, dans lequel il y avait des instruments virtuels dans plein de synthétiseurs, mais moi, j'aimais pas ce qui sonnait en fait synthétique. Ce qui me plaisait dans pourquoi j'avais aimé RJD2, Flying Lotus et tout ça, c'est parce que pour moi, ça sonnait acoustique, organique. J'avais l'impression que c'était des vrais instruments qui étaient manipulés. En fait, j'écoutais pas du tout de house, de techno. Pour moi, aujourd'hui, j'adore ça, mais c'est venu vraiment très, très tard. Et à cette époque, tout ce qui sonnait électronique, j'aimais la méthode, mais pas les sons. Donc, ces premiers morceaux, ces premières bribes de boucles, c'était des instruments virtuels de ce logiciel, des faux de Glockenspiel, des faux Fender Rhodes, des faux marimba, donc aussi des sons avec lesquels j'étais familier avec la classe de percussion, tous les claviers de percussion, et c'était des petites boucles. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que je fais un peu cette, quand même cette musique-là en foi, voilà, avec de l'expérience et de la recherche et du temps. Et voilà. Mais il y a déjà dans ces petites boucles-là...
La matrice de...
Oui, je crois, ouais, la matrice de ma musique d'aujourd'hui. C'est mélancolique, mais quand même solaire. C'est des sons... assez aigu, il y a des clochettes, il y a un peu de piano, du faux piano, des vraies batteries, des petits bouts de sample, mais sauf que ça dure 16 mesures et voilà. Et en 2012, en effet, sortent les premiers morceaux un peu aboutis sur un EP.
Dans les oreilles de...
Superpose.
Et l'album arrive donc trois ans plus tard, en 2015.
Oui.
Qu'est-ce que tu avais dans les oreilles à ce moment-là?
Alors, quand j'ai fait mon premier album, j'écoutais John Hopkins, j'écoutais No Such Thing, j'écoutais Philip Glass et John Cage en boucle, en gros, voilà. J'écoutais ça. Il y avait toute cette scène beatmaking, abstract hip-hop qui me touchait moins, qui prenait une tournure que j'aimais moins. J'avais pas l'impression que c'était pour ça que j'avais aimé cette musique-là. Et donc, j'ai commencé à écouter naturellement d'autres disques, quoi. Il y a aussi l'album de Darkside qui était sorti en 2013, que j'écoutais beaucoup, Nicolas Jarre, enfin voilà. Tous ces disques-là. Mais c'est vraiment... Je me souviens, les deux disques que j'écoutais en boucle, c'était Immunity de John Hopkins. Home de No Such Thing, le deuxième No Such Thing. Ça, je les écoutais tous les soirs, presque comme... une discipline. En fait, avant ces albums-là, ce qui m'a plu dans la musique instrumentale, hip-hop, un peu breaké, c'était un peu comme on apprécie une bonne figure de skate ou quelque chose de bien réalisé. Je me disais « Ah, cool, assez cool, c'est bien fait. » Ou je me disais « Ah, bien joué !» quand j'écoutais ça. Et ces disques-là, ce sont les premiers disques que j'ai écoutés où je me suis pas soucié des astuces, des tricks de musique, mais j'avais juste l'impression d'être plongé dans un monde, dans quelque chose de l'ordre de l'épopée ou de l'aventure. Je trouve qu'il y a ça dans la musique de John Hopkins, qu'il y a ça aussi chez No Such Thing, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, je pense, avec le recul.
Et guidé même vers des manières de concevoir ta propre musique ?
Oui, complètement. C'est une musique qui me paraissait plus profonde que celle que j'écoutais avant, et ça m'a intéressé d'aller vers ça. Et jusque-là, je composais de manière complètement instinctive. C'est-à-dire que ça me prenait 3 heures pour faire 2 morceaux. Aujourd'hui, ça me prend 3 ans pour faire 2 morceaux. Donc, c'est le début de ce...
processus, ouais. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quel est le disque aujourd'hui dont tu pourrais dire que c'est celui que tu as le plus écouté ? Disons celui sur lequel tu reviens tout le temps.
Il y en a plusieurs que j'ai écouté énormément. Il y a... l'album de Nick Drake qui s'appelle 5 Leaves Left, qui n'a absolument rien à voir avec ma musique, mais que j'ai écouté énormément. Il reste parce que c'est par sa beauté, par son côté intemporel, par le fait que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui m'a été transmis mais que je suis allé chercher, donc j'y suis particulièrement attaché. But it came by on the way. Said she had a word to say.
at things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose.
Et sinon, je dirais que c'est l'album Laughingstock de Tall Talk que j'ai le plus écouté de toute ma vie, je pense. Bien que je l'ai découvert assez tard. Pour moi, c'est un sommet de musique. C'est à la fois très mystérieux et en même temps simplement de la musique. Magique et très humain. Très très bien enregistré.
Comment tu l'as découvert ce disque ?
Je l'ai découvert dans une interview de Floating Points, qui, à la sortie de Elenia, son album Elenia, il parlait de disques qu'il aimait. Je suis allé écouter par curiosité plein de références, dont celle-ci. Évidemment, je connaissais Talk Talk.
Mais moi, je trouve pas ça si évident, en fait. Tu le connaissais par héritage familial, parce que ça, voilà.
Oui, je connaissais par héritage familial.
Pour quelqu'un de ta génération, c'est pas du tout l'évidence de connaître Talk Talk.
Oui, c'est vrai. Mais alors, moi, j'ai un père qui était journaliste musical.
Ah.
Et qui avait une collection de disques, de cassettes, dans une pièce très impressionnante. Donc, j'avais reçu. Il avait reçu et j'avais écouté tous ces disques-là.
It's harder to sense to say.
oreilles, dans les oreilles. Dans les oreilles de...
Superpose.
La voix de Marc Hollis de Bon Matin sur Radio Nova. Ici, le groupe Tall Talk est convoqué sur nos ondes. C'est parce que jusqu'à 11h, nous sommes en immersion dans les oreilles du musicien Superpose. Les oreilles dans lesquelles on entendait à l'instant Ascension Day, extrait de Losing Stock, dernier disque du groupe Tall Talk, sorti en 1991. Un disque découvert en famille qui n'a jamais quitté sa discothèque. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il y a des disques que tu aimes toi transmettre aux autres?
Oui, il y en a plein en fait, des disques que j'aime faire découvrir. Il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, Glassworks, Philip Glass. C'est un... Quand je rencontre des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par cette musique-là, je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée, on va dire la plus pop et la plus émouvante directement vers les musiques américaines répétitives. L'album solo de Marc Hollis, donc le chanteur de Tall Talk, que je fais tout le temps découvrir. L'album Quiet Signs de Jessica Pratt. Moi, j'écoute beaucoup de folk, j'adore ça, beaucoup d'albums guitare-voix ou piano-voix. C'est une chanteuse américaine, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble, qui a fait plusieurs disques, c'est son quatrième, qui s'appelle Quiet Signs, qui est un album enregistré de manière très très intime. Elle a une voix très aiguë, elle a quelque chose, elle a un timbre très particulier, et c'est très doux comme musique, c'est très accueillant, on a envie de se blottir contre ses morceaux. Ça, je transmets beaucoup ce disque-là. Aussi, un groupe que j'adore, c'est Fleet Foxes, donc rien à voir, mais j'y pense parce que c'est la folk qui m'y fait penser. Après, ça n'a évidemment rien à voir, mais j'aime justement à quel point c'est une musique qui est foisonnante, qui est riche en arrangements, très écrite, qui a un spectre très très large. Il y a des moments qui sont tout calmes, à peine. Cet album qui s'appelle Crack Up de Fleet Foxes, qui est mon album préféré d'ailleurs des quatre, qui est d'une richesse incroyable. Il y a des passages avec des arrangements de cordes. Je sais pas, on dirait Morricone, et à des moments, c'est un petit piano enregistré avec un dictaphone. Enfin, c'est très très large. Ça m'inspire beaucoup, j'adore transmettre ça. Des musiques.
Qui ont beaucoup d'idées, enfin, où il y a beaucoup de. Les auditeurs voient pas, mais tu fais le geste d'ouvrir l'espace, en fait, en grand.
Ouais, des musiques très dynamiques qui vivent à grande échelle. Ça, j'adore ça.
Who stole the life from you? Who turned you so against you? Who was the thief who shaved your teeth, accepting just virtue?
Nova.
Dans les oreilles de
Superpose.
Quelles musiques ont accompagné la sortie, enfin la création de ce disque-là? Enfin, du disque qui va arriver.
Du disque qui va arriver. Je dirais les derniers disques de Nick Cave and the Bad Seeds qui m'ont donné envie de réenregistrer des instruments acoustiques, de la vraie batterie et des chœurs aussi. Il y a ce disque qui s'appelle Push the Sky Away de 2013 de Nick Cave and the Bad Seeds que j'adore. C'est un disque que j'ai beaucoup écouté en faisant l'album, avant de le faire et en le faisant.
Keep on pushing. Keep
J'ai écouté aussi Leonard Cohen. J'ai écouté de la musique baroque. Sur l'album, il y a des instruments baroques. L'écriture ne l'est pas. C'est pas du tout un album avec cette écriture-là, mais il y a des timbres d'instruments baroques. Il y a de la viole de gambe, il y a des flûtes anciennes, il y a Monteverdi, Copini. J'ai écouté des enregistrements d'un ensemble qui s'appelle Le Poème Harmonique. J'ai écouté ça. J'ai pas écouté de musique électronique. Enfin, je crois pas. J'ai écouté un peu Kaitlyn Aurelia Smith. Musique psychédélique avec de la synthèse modulaire, voilà. Parce que très libre, pareil, très foisonnant, beaucoup d'idées. Plein de petits sons comme ça tout le temps, ça m'a...
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et ça dépend vraiment de chacun, en fait, là, t'es pas perturbé par la musique, tu peux en écouter. Il y a des compositeurs qui, au moment, dans le temps de la composition, peuvent pas du tout écouter d'autres musiques.
Ouais, moi, j'ai un rapport inverse à ça. Si je n'écoute pas de musique en faisant, je suis perdu. J'ai un rapport à la musique... En fait, je fais de la musique tout seul. Enfin, je la compose tout seul. Là, le disque qui va sortir a été enregistré avec des instrumentistes, mais je la compose tout seul. Et j'ai besoin de savoir qu'elle a une résonance aussi avec le monde et qu'elle correspond à un mouvement de vie, qu'elle répond aux autres musiques aussi. Par exemple, quand j'ai fait Opening, c'était une musique, il y avait beaucoup de... J'avais l'impression, en tout cas en musique électronique, de musique très breakée. Et moi, j'ai eu envie de faire un disque qui ne le soit pas aussi pour répondre. Ce que je me raconte souvent, c'est que si tout le monde avait fait des disques au piano avec des jolies nappes de synthétiseur, peut-être que j'aurais fait de la
musique briquée ou des choses plus...
Oui, mais assez sincèrement, hein, je pense que c'est que j'envisage aussi la musique comme ça.
Et puisqu'on parle de ta musique, de ce dernier disque, est-ce qu'il y a un morceau dont tu es particulièrement content, qu'on pourrait écouter, un morceau auquel tu es particulièrement attaché?
Très honnêtement, c'est vraiment ce disque-là dont je suis le plus fier, le plus abouti, mais ça fait très... Donc, mais c'est très sincère. Donc, Geneva, extrait de mon album.
Les oreilles de
Superpose.
Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment?
En ce moment, j'écoute le live à Montreux de Anna von Oswaltz. C'est de l'orgue et elle chante. C'est cette musicienne où les cathos intégristes l'ont empêché de jouer en France récemment.
Oui, il y a récemment.
Voilà, j'écoute ça. Swans, c'est le groupe de Michael Gira. C'est un groupe de rock qui s'est arrêté, je crois, dans les années 80. Je connais très mal leur histoire avant la reprise et qui a repris, donc qui s'est arrêté dans les années 90, pardon, et qui a été en hiatus pendant une quinzaine d'années et qui a repris avec un album en 2013. C'est une musique très répétitive, très progressive. En fait, ça ressemble au boléro de Ravel dont je vous parlais, mais en rock. Et j'adore. Les morceaux, ils font 8, 9, 10, 13 minutes. Il y a un morceau qui fait 30 minutes. Il y a toujours une nouvelle piste qui se rajoute au bout de 4 minutes. C'est lancinant, c'est sombre.
Il y a quand même même cette idée d'avancer quand même. Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment une idée de mouvement très forte dans ce que tu décris.
Oui.
De ces musiques-là.
En fait, ce sont des musiques qui ont à la fois... En fait, je les adore parce qu'elles prennent le temps et elles avancent en même temps. Les morceaux sont longs, ils nécessitent un peu d'engagement de la part de celui ou celle qui les écoute. Il faut accepter qu'ils prennent du temps à se développer, mais ils sont tout le temps dans une énergie de presque de course, mais ils prennent le temps de courir. J'adore. Ouais. Donc j'écoute ça, Swans, donc Ravel. J'écoute Cassandra Jenkins en ce moment. Ah si, j'ai découvert très récemment, mais ça date de, pareil, des années 90, que Brad Meldo avait fait une version de Riverman de Nick Drake. Donc j'écoute beaucoup ça. Dernier morceau que j'ai écouté avant de venir, c'est horrible, mais j'étais dans mon studio, donc c'est un morceau d'une musique de film que je suis en train de faire.
Et enfin, dernière question, c'est quoi la musique pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
La vie. La musique, ça me permet, celle que j'écoute et celle que je fais, de soit vivre dans des univers... soit créer des univers analogues ou nôtres pour mieux le comprendre. Ouais, c'est ça. C'est un miroir de notre monde, des émotions qui nous traversent. Voilà.
Merci.
Mais merci.
Nous sortons du miroir sur les notes de Geneva. Et oui, c'est ainsi que s'achève cette immersion dans les oreilles du compositeur Superpose. Geneva, deuxième extrait de Nova Cardinal, troisième album solo du musicien qui paraîtra le 22 mars prochain. Superpose qui, entre deux musiques de films et autres projets, a pris le temps de partager avec nous les musiques qui l'anime et vous aura donné envie, hein, je l'espère, d'agrandir votre discothèque. Merci à lui pour ça et merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous attends dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.